Bonjour et bienvenue sur En Amour, ton émission de podcast dans laquelle nous explorons les méandres des relations amoureuses, pour y ajouter une pointe de conscience, de bienveillance et bien sûr d'amour. Moi c'est Nicolas, je suis ton hôte et je suis aussi l'auteur du blog graindecoeur.fr. Aujourd'hui c'est l'épisode 151, j'ai intitulé « Comment prendre soin ?» au lieu d'intensifier la situation lorsqu'il y a une tension dans ton couple en fait. Par exemple, comment préserver, comment peut-être même faire du bien à ton couple alors qu'il y a une tension qui se pointe, il y a quelque chose qui accroche, il y a quelque chose qui gratte, il y a quelque chose qui se passe pas terrible, qui se passe pas bien. On va continuer un peu sur l'élan de partager des outils du docteur Gottman, du docteur Gottman et de sa femme qui est psychologue. Je sais pas si elle est docteur elle-même, je sais plus. Et bref, on va partager un peu des outils, des choses qu'eux, ils ont développées ou constatées plutôt des fois. C'est pas nécessairement des choses qu'ils ont inventées, c'est des fois, c'est des choses qu'ils ont vraiment appris. Comme je te le disais dans l'épisode préférant, peut-être que j'avais fait une introduction un peu plus longue, hein, là je vais pas refaire l'introduction de qui sont John Gottman et Julie Gottman, donc c'est des psychologues américains qui font de la recherche autour du couple et du travail autour du couple depuis une quarantaine d'années. Voilà, je ne vais pas trop en dire plus cette semaine, il y a l'épisode précédent qui en parle un peu plus, mais ils ont observé des couples, plein de couples, des milliers de couples au fil de ces années, et bien sûr dans l'eau il y avait des couples qui étaient des désastres entre guillemets, donc ils appellent les disasters, donc c'est des désastres, et des couples qui étaient des masters, donc des maîtres entre guillemets, des personnes qui excellent à bien vivre le couple, à être heureux en couple, et donc ils ont appris de ces deux extrêmes on va dire, et bien sûr il y a plein de couples qui étaient entre les deux, il y a des choses qui faisaient bien on va dire, des choses qui faisaient moins bien, etc. Et notamment ce qu'on va voir aujourd'hui, ça fait partie des choses qu'ils ont appris des couples qui font les choses bien. Donc je vais te partager quelque chose qui est encore indispensable pour moi, qui paraît vraiment essentiel. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment abordé encore, je pense, c'est peut-être quelque chose qui est assez nouveau, et en même temps, c'est peut-être pas, voilà, c'est une évidence, entre guillemets, mais je pense pas en avoir parlé directement, un peu comme ce qu'on voyait la semaine dernière, où j'en ai parlé peut-être un peu plus directement que ça, mais ça sûrement un peu moins. Eux, ils appellent ça... Les Gottman, ils appellent ça des repairs. Donc en anglais, c'est repairs. En français, ça pourrait se traduire par réparation. Je trouve qu'il est un peu maladroit comme traduction. J'ai pas trouvé de mot qui était très juste pour le traduire ou se rapprocher. Donc ça va être une manière d'agir, ça va être une manière de communiquer, ça va être créer des règles dans la relation qui vont faire que on va éviter une escalade à la dispute, aux tensions, ou à la prise de tête, à la prise de bec, etc. Aux engueulades. On va trouver des systèmes, des outils, des manières de faire qui vont empêcher ou qui vont parfois réparer cette escalade en fait. Donc c'est pas juste une réparation après qu'il y ait une situation où il y a eu du mal qui a été fait à un des partenaires ou deux des partenaires ou couple, tu t'es engueulé et puis il n'y a pas eu de mal physiquement, je veux dire il n'y a personne qui s'est tapé ou quoi, mais on est un peu tous les deux blessés quoi, nos égos, nos cœurs, voilà, parce qu'il y a cette tension dans la relation et personne entre guillemets était abusif ou malsain, mais il y a juste eu cette maladresse dans notre communication qui fait qu'on s'est un peu pris la tête, et du coup, on peut être un peu blessé, le couple a pu être un peu blessé, et ces repairs, ces réparations, on va les appeler réparations pour aujourd'hui, elles servent soit à éviter que ça arrive, ou à l'interrompre plus tôt, soit à penser un peu ça, à guérir un peu ça, à amener du baume au cœur, à amener du baume aux amoureux, pour que ça aille un peu mieux. Donc comment Gottman, comment ils vont définir un repair, une réparation? Je te l'ai traduit, je l'ai un peu ajusté, parce que je n'ai pas trouvé pareil, la traduction n'était pas folle, mais c'est toute déclaration, donc quelque chose de verbal ou action, donc quelque chose dans le faire plutôt, que ce soit du loufoque, du ridicule, du stupide ou quelque chose de sérieux, qui empêche la négativité de s'intensifier et d'escalader jusqu'à la perte de contrôle. Donc souvent ce qui se passe quand on s'engueule, quand on se dispute, c'est que il y a une sorte de perte de contrôle, on est pris par nos émotions, on est pris par quelque chose, on perd le contrôle et on dit des choses qu'on regrette, on fait des choses qu'on regrette, il y a vraiment cette perte de contrôle est là, donc Gottman, il voit les réparations comme quelque chose qui va empêcher ça, prévenir ça, qui va vraiment bloquer ça, entre guillemets, et ça peut, on passe par le loufoque, par le ridicule, parfois qui peut paraître même stupide de l'extérieur, mais si ça marche, ça marche, c'est ça qui est important, ou quelque chose de plus sérieux. Et tu verras, je vais te donner plein d'exemples aujourd'hui, donc on va un peu visiter ce panel-là, de loufoque à sérieux, en passant par d'autres choses. L'important, c'est que c'est quelque chose qui marche sur ton couple, et je vais te donner d'autres exemples aussi qui ne viennent pas nécessairement de Gottman, que moi j'ai vu ailleurs, et qui sont aussi, moi, du même ordre pour moi, qui sont de l'ordre de la réparation, soit dans la prévention, soit dans la réparation, et qui font vraiment du bien pour éviter des conflits, en fait. ce qu'ils ont vraiment vu, en fait, Gottman, quand ils ont observé, je t'en parlais un peu la semaine dernière, avec cette espèce de love lab qu'ils ont, où ils font venir des couples, ils leur font avoir une conversation pendant un quart d'heure sur un sujet délicat ou le plus gros s'engueulade de leur vie. Ils les observent, ils sont filmés, ils sont connectés à un truc qui mesure leur pouls, etc. Et puis après, le couple a un quart d'heure pour parler de ça, et après, ils analysent, ils regardent, voilà, je sais plus, ils ont vu 3000 couples qui ont fait ça, un truc comme ça. Avec l'équipe, ils regardent, bah voilà, image par image, ce qui s'est passé, le mouvement corporel, les mots, avec l'audio, ce qui se passe au niveau du pouls, ce genre de truc. Et voilà. Et donc, à force de faire ça, en fait, ils se sont rendus compte que les couples qui naviguent bien les tensions, les disputes, les engueulades, les sujets délicats, bah, ils font les réparations tôt, quand la tension arrive, ils le font tôt et ils le font souvent, en fait. Donc, c'est des gens qui ont développé des stratégies, peut-être même efficaces, pour prévenir les disputes, pour vraiment... C'est des couples qui arrivent à rester dans le dialogue, qui trouvent la paix, qui trouvent l'harmonie, du moins qui arrivent à le retrouver rapidement. C'est-à-dire que dès qu'ils sentent que ça va pas, qu'il y a des opinions différentes, qu'il y en a un qui est fatigué, qui est énervé, ils ont trouvé des outils, des stratégies, des méthodes, des manières de faire, des manières de penser, des manières d'agir, des manières de parler, qui font que ils vont pouvoir, entre guillemets, voilà, retourner à quelque chose de plus sain, de plus dans la communication. Donc pour moi, c'est vraiment un muscle à travailler. C'est des choses qui peuvent s'apprendre, qui peuvent se développer, entre guillemets. C'est des automatismes que tu as, que tu peux faire évoluer en quelque chose de plus sain et de plus bénéfique pour ta relation, pour aller vers ces fameuses réparations. On va voir un peu plus loin à quoi ça peut ressembler, au lieu d'automatismes qui vont abîmer ton couple. Donc moi, c'est... Tu vois, avant que je découvre ça chez Gottman, c'était quelque chose qui était... Tu vois, c'est des choses que je faisais... Enfin, voilà, je pense qu'on le fait tous plus ou moins naturellement, de se rendre compte que quand on a, entre guillemets, cette autoroute qui va faire qu'on va aller vers le conflit et qu'on fait ça sans trop réfléchir de manière assez inconsciente parce que ben, ma chérie, elle dit ça, puis moi, je dis ça, puis elle dit ça... Tu vois, les couples qui se disputent beaucoup, qui se disputent depuis longtemps, ils connaissent leurs disputes par cœur. Souvent, tu sais ce que l'autre va dire, tu sais ce que toi, tu vas dire, tu joues toujours la même scène, quoi. Si c'était une scénette, entre guillemets, ou une scène, t'étais sur la scène, tu jouerais toujours les mêmes rôles, quoi. Elle joue le même rôle, tu joues le même rôle, ou il joue le même rôle et tu joues le même rôle, peu importe. Et c'est assez prévisible, en fait. Et tu pourrais même, voilà, des fois, tu sais où ça va aller, et puis tu le fais quand même, quoi. Donc, il y a vraiment ça. Donc là, il y a des automatismes qui vont abîmer le couple, qui vont créer plus de tensions, plus de disputes, du désamour, des blessures, des choses comme ça, et... C'est d'apprendre à les changer. Là, il y a vraiment ce travail-là. Et moi, c'est quelque chose que j'avais fait, bien sûr, avant de rencontrer Gottman, et qui, je trouve, m'a aidé un peu à mettre des mots peut-être plus précis sur ce que je vivais, sur ce que je ressentais, sur ce que je cherchais à faire, et une manière plus claire de penser à ça, en fait, tout simplement. C'est souvent ce que je... C'est pour ça que je t'amène des cartes de lecture ou des choses qui sont un peu pratico-pratiques. Des fois, c'est que souvent, on a une intuition qu'il faut faire ça, et là, on a quelqu'un qui a passé sa vie à travailler là-dessus, qui a réfléchi, qui a étudié plus de 3000 couples, qui a publié 200 papiers, qui a écrit une dizaine de bouquins avec sa compagne, qui a expérimenté dans son couple, qui a accompagné... Enfin, voilà, c'est vraiment des gens qui ont passé leur vie à ça, quoi. Qui ont cette passion-là depuis qu'ils sortent de leurs études de psychologie. Et donc, il y a peut-être 2-3 petites choses à apprendre de tous ces couples qu'ils ont vus, de toutes ces séances qu'ils ont faites de thérapie, de tout leur chemin personnel, parce que c'est des personnes, forcément, si t'as fait 40 ans de recherche, ben... T'es bien dans ta soixantaine ou 70 ans, donc c'est des gens qui ont vécu aussi, ne serait-ce que pour ça, des fois, il y a de la valeur à écouter des gens plus âgés, qui ont vécu peut-être un peu plus longtemps que nous, hein, la sagesse des anciens, on va dire. Il y a un peu de ça aussi dedans, mais il y a beaucoup d'apprendre des autres couples, et je trouve ça intéressant. Donc on va explorer un peu ces 6 catégories aujourd'hui, qui permettent de faire des réparations efficaces. Peut-être que toi, tu vas trouver autre chose, peut-être que tu fais déjà autre chose, et c'est OK. Moi, j'ai pas du tout le sentiment que c'est une liste exhaustive de tout ce qui est possible. Par contre, je trouve que c'est une bonne base pour ceux qui font ça mal. Déjà, si t'es pas bon dans les réparations, si tu sais pas désamorcer un conflit, si tu es très maladroit à ça, ou vous savez pas, tous les deux, etc., ça peut être une bonne base. Encore une fois, je te donnerai peut-être 1 ou 2 exemples de choses qui ne sont pas dans ce que j'ai pris de Gottman, et qui sont vraiment des choses que j'ai vues d'ailleurs, de mon expérience personnelle, ou d'autres mentors, et peut-être tu verras qu'il y a, voilà, il y a d'autres manières de faire, mais... Encore une fois, ça va être une bonne base. Donc, je vais juste passer les 6 catégories en revue rapidement, et puis après, on va les détailler une par une, te donner des exemples, comme ça, tu comprends bien de quoi je parle. Donc, la première catégorie, c'est parler de tes émotions. Donc, c'est reconnaître mes émotions, c'est je ressens, par exemple, ou je sens, etc. On est un peu dans cette dimension-là, dans la première catégorie des réparations. La deuxième catégorie des réparations, ça va être prendre responsabilité de mes actions. Donc là, ça peut être je m'excuse, on va avoir d'autres exemples plus tard, par exemple. Chercher à trouver, la troisième, c'est chercher à trouver un accord, un compromis, une solution. Donc là, on va aller vers le dire oui. Peut-être quand on est dans le conflit, on va chercher à dire non, à garder le contrôle, à garder le pouvoir sur la situation avec notre partenaire, et du coup, on va pas vouloir dire non. On va pas vouloir dire oui, pardon, on va vouloir dire non, camper sur notre position, et là, c'est une invitation à aller vers le oui, à trouver une solution gagnante-gagnante, idéalement, à trouver un compromis si c'est pas possible, trouver un terrain d'entente peut-être aussi, c'est peut-être une autre manière de le reformuler. Donc ça, c'était la troisième. Donc quatrième, ça va être une manière de... Il y a un besoin de retrouver le calme et la sérénité. Peut-être que, voilà, il y a de l'agitation, il y a des choses qui sont là, qui se mettent en travers. Donc là, pour réparer, on va chercher à aller retrouver le calme, pardon, et la sérénité. La cinquième catégorie, c'est besoin de faire une pause, d'un stop. Donc là, on est peut-être un peu plus loin que celle d'avant. C'est-à-dire qu'on a raté l'étape de retrouver le câble et la sérénité, le calme, pardon, j'ai du mal à dire calme, mais je parle de câble aujourd'hui, le calme et la sérénité. Et du coup, on a vraiment besoin de repartir à zéro sur la conversation, de prendre une pause. Tu verras que c'est pas juste de prendre une pause, faire un stop ou faire une pause, ça peut être autre chose. Il y a d'autres manières de faire ça. De la manière de laquelle les Gottman te le proposent. Après, c'est à toi de voir, encore une fois, si tu veux le faire comme ça ou autrement. Ça, c'est la cinquième catégorie. Et la sixième, c'est l'appréciation et la gratitude. Donc, pareil, un bon remède aux tensions, à la dispute, c'est se reconnecter à qu'est-ce que j'apprécie chez toi, qu'est-ce que j'apprécie dans ce qu'on est en train de faire. Peut-être que, ouais, c'est compliqué d'avoir cette conversation, mais peut-être que c'est super qu'on l'ait parce qu'on a besoin de l'avoir. Et en même temps, ok, on n'est pas encore très à l'aise avec, et très agile et très, très adroit avec comment on navigue cette conversation pour le moment, mais. Voilà, on a appris deux, trois petits trucs, on a écouté deux, trois épisodes d'En Amour, on a lu un ou deux bouquins sur la communication non violente, on a peut-être fait un stage ou deux, on a pratiqué un peu avant ensemble, et du coup, bon, on va essayer d'aller vers vraiment le mieux communiquer, mieux faire, mieux naviguer ça, et en même temps, en attendant, ben, merci à toi de faire les efforts que tu fais, merci à moi de faire les efforts que je fais, merci de permettre cette qualité de relation-là qui n'est pas dans les automatismes qui mènent à la colère, dans les automatismes qui mènent à la dispute, dans les automatismes qui mènent à la prise de tête, etc. On sort de ça, on casse tout ça et on arrive à communiquer, à échanger, à être avec l'autre d'une manière différente, d'une manière qui, moi, me semble plus intéressante, parce elle peut faire du bien au couple, elle peut faire du bien à la relation, elle peut permettre à la relation de durer, elle peut permettre d'avoir des conversations intéressantes, de casser les tabous, de casser les non-dits, parce qu'on sait communiquer. Et ça peut avoir de l'appréciation et de la gratitude pour cette qualité de relation, pour ces efforts-là, ça peut être aussi une belle manière. Donc, comme tu peux le voir, les catégories, elles sont assez variées. Peut-être qu'encore à ce stade, ça reste un peu vague. Hein. Bon, bah, allez, je te donne un peu plus d'exemples dans un instant. Pour rappel, donc, c'est une réparation, c'est une stratégie, une habitude à prendre, des manières d'éviter le conflit ou d'éviter une escalade, quoi. Ici, le but, quand on va utiliser ces stratégies-là, tu l'appelles comme tu veux, s'il y a un mot qui te parle plus qu'un autre, le but, c'est pas d'éviter un sujet de situation délicate ou de faire un tabou, par exemple, hein. C'est de rester dans le calme, dans la bienveillance, dans la connexion, dans une communication ouverte avec un dialogue possible, quoi. L'invitation, c'est vraiment ça. C'est au lieu de se prendre la tête et de pas résoudre le problème parce qu'on se prend la tête et peut-être avoir une réconciliation sur l'oreiller, et ben peut-être quand même faire la réconciliation sur l'oreiller, même s'il n'y a pas besoin, parce que pourquoi pas, et en même temps arriver à parler des choses, arriver à régler des problèmes, arriver à trouver des solutions, arriver à ajuster la relation, ajuster les règles. J'en ai pas trop parlé, mais c'est beaucoup ressorti dans mes recherches en préparant l'épisode sur le fait que ça va découler des règles du couple. Et un des premiers articles que j'ai écrit sur le blog, sur grainesdecoeur.fr, et du coup l'un des premiers podcasts que j'ai enregistré, parce qu'à l'époque, les 100 premiers épisodes, c'est je reprenais un peu mes articles que j'avais écrits dans le passé. Après, j'ai arrêté d'écrire des articles. Donc il y a une centaine d'articles, 150 épisodes, et là, c'est vraiment de la création pure, chaque podcast, entre guillemets. J'ai pas fait d'article avant. Et je ne mets pas à jour, entre guillemets, ce que j'avais écrit un ou deux ans plus tard en faisant une émission. C'est vraiment, je crée une émission, enfin, un podcast à chaque fois nouveau. Et j'avais parlé notamment de trois choses importantes pour le couple, ce qui est les règles, les valeurs, et j'ai oublié le troisième de tête, j'ai pas préparé ça, mais voilà, c'était vraiment une des fondations pour moi du couple, être au clair sur les règles, être aligné sur les règles qu'on a, comment ça fonctionne. Et je prends toujours l'exemple avec les règles, c'est quoi tromper? Est-ce que tromper, c'est coucher avec quelqu'un? Est-ce que tromper, c'est embrasser quelqu'un? Est-ce que tromper, c'est commencer à flirter avec quelqu'un? Est-ce que par SMS, par exemple, est-ce que flirter, c'est encore avant d'avoir pris le numéro de cette personne-là et de commencer vraiment à avoir eu l'intention de flirter avec elle ou avec lui, et puis d'avoir fait la démarche d'obtenir le numéro, etc., si c'est quelqu'un que tu connais pas? Voilà. Il est où le curseur de la tromperie, en fait? C'est important dans une relation d'être au clair sur ça, mais c'est important d'être au clair sur le fonctionnement au quotidien, sur plein d'autres choses, sur comment on règle un problème, par exemple. C'est quoi notre manière de régler les soucis, c'est quoi notre manière de prendre une décision quand vraiment il y a une grosse décision et qu'on n'est pas d'accord, ben, est-ce qu'on a quelque chose sur lequel on peut retomber, retomber sur nos pattes, entre guillemets, et se dire, ben là, ok, dans ces cas-là, décision à prendre importante de coupe, ben, on va faire pour et contre, on va faire une liste, toi tu fais une liste, moi je fais une liste, et après on débat, et tant qu'on n'est pas réussi à trouver une solution qui va aux deux, on ne prend pas cette décision, par exemple. On continue de chercher, on continue d'explorer, etc. Donc trouver des... Voilà, c'est des choses que des fois, tu fais dans d'autres domaines de ta vie qui fonctionnent. Des fois, on ne pense pas à faire ça dans le couple. Ça peut tout à fait marcher dans le couple. Voilà, vraiment, l'invitation avec ces six catégories, c'est rester dans le dialogue, connexion, bienveillance, accueil de ce qui est, communication ouverte. On est vraiment là-dedans. Donc, on va voir maintenant les six catégories avec un peu plus de détails. Donc, la première, je te rappelle, c'était reconnaître mes émotions. Je ressens. Donc, tu pourrais dire, par exemple... je commence à avoir peur parce que, je sais pas, parce qu'on se prend la tête, parce que je vois que tu t'énerves et je suis pas à l'aise avec ça, parce que je me rends compte des problèmes qu'on a dans notre relation, etc. Ça peut être, je commence à avoir peur, tout court, avec plus de précision selon si, pourquoi t'as peur. Je me sens triste, par exemple. Ou je me sens sur la défense, ou sur la défensive. Est-ce que tu peux reformuler ce que tu viens de dire? Je me sens critiqué, je me sens blâmé, je me sens jugé. Est-ce que là aussi tu peux reformuler ce que tu viens de dire? Donc, tu vois, il y a une ou deux éléments ici. Il y a l'expression de ce que toi, tu ressens, ce qui peut-être pourrait ressembler à une partie de la CNV, on va dire, la communication non-violente, parler avec un jeu et dire les émotions qui sont là pour toi. Et derrière, une demande peut-être d'ajustement. C'est-à-dire que là, la manière dont ça a été exprimé, moi, ça me met sur la défensive, où je me sens critiqué, blâmé, jugé. Est-ce que peut-être que tu peux reformuler ton idée, ta phrase, ton argumentation pour que... Voilà, maintenant que tu sais que moi ça me ferme, que moi ça me crispe, que moi je me sens mal parce que je me sens jugé, blâmé, critiqué, etc. Comment toi tu peux derrière peut-être faire, voilà, reformuler. Donc ça c'est vraiment un exemple, parce que un exemple intéressant, il faut comprendre que ton partenaire peut-être qu'il ne voulait pas être critiquant, ou blâmant, ou jugeant, etc. Mais malgré tout, toi tu l'as vécu ainsi, malgré tout, toi tu l'as vécu comme ça, donc... C'est important de se donner une deuxième chance, et des fois, tu verras qu'il faudra que tu te donnes une troisième, une quatrième, une cinquième chance. Bien communiquer, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident, il y a des émotions, il y a des maladresses, il y a des croyances, il y a des situations vraiment compliquées à naviguer, et du coup, il faut pas hésiter à dire, là, est-ce qu'on peut pas recommencer, quoi? Est-ce qu'on peut pas formuler autrement? Est-ce qu'on peut pas essayer autrement? Moi, j'ai compris ça, j'ai compris que tu me reprochais ça, toi, t'en penses quoi? Ben non, moi, je te reproche pas du tout ça, c'est ça que je pense, etc. Et vraiment, arriver à se comprendre, aller vers comprendre l'autre, plutôt que de faire des déductions, des appréhensions de ce que veut dire l'autre, ou les intentions de l'autre, et de le juger, entre guillemets, à notre tour. On se sent jugé, je juge en retour. Et là, on va vers l'escalade à la tension, alors que, encore une fois, l'invitation, c'est de faire l'inverse, de désamorcer tout ça, et peut-être que vraiment de rester dans une communication fluide et naturelle et bienveillante, et tout ça, faire tout ça presque naturellement, après quelques années, hein. Ça prendra sûrement plus que quelques mois ou quelques semaines de pratique, mais tu verras que, moi, mon expérience, c'est pas dans 100% des cas, il y a encore des conversations où je me trouve maladroit, où je trouve qu'on communique de manière maladroite avec ma compagne, et en même temps, on est le plus adroit qu'on a jamais été quand on parle de ça, et c'est beaucoup mieux que ce qu'on faisait avant, et c'est beaucoup mieux que ce qu'on faisait il y a 10 ans ou 5 ans, et on va vers le mieux communiquer petit à petit, quoi. Donc ça, c'était la première catégorie, donc reconnaître mes émotions, je ressens. Deuxième, prendre la responsabilité de mes actions. Donc là, ça peut être simplement « je m'excuse », deux, ou « je m'excuse tout court », tu peux développer, tu peux le laisser court, ou « pardonne-moi », etc. On réessaye, c'est peut-être aussi, une invitation à dire « écoute, là, je vois qu'on se plante, est-ce qu'on ne peut pas réessayer ?» Est-ce qu'on peut pas, voilà, il y en a qui se ressemblent un peu, des fois, c'est les exemples qu'eux, ils prennent, hein, je te les redonne un peu des fois, c'est à toi de voir si c'est plus pour toi dans prendre mes responsabilités, dans parler de ce que je ressens, dans les autres qu'on va voir plus tard, peut-être que tu le mettras ailleurs, mais voilà, c'est l'invitation à dire, voilà, on est un peu coincé, moi je le mettrais un peu plus dans le stop des fois, mais c'était clairement des exemples que j'ai trouvé qui viennent de ce que produit l'Institut Gottman, en fait, en parlant de ça, du coup, voilà, je te le redonne aussi, parce que peut-être que ça parlera plus à quelqu'un d'autre qu'à moi dans cette catégorie-là, l'important, encore une fois, c'est que ça marche, hein, c'est pas dans quelle catégorie tu le mets. Donc là, prendre ma responsabilité, ça peut ressembler à « ok, je commence à voir mes schémas, ou je vois les schémas, et ce qui se passe dans mes actions, dans ce qu'on est en train de vivre, quoi. » De prendre, peut-être que pour le moment, il n'y a rien d'en faire, pas besoin d'en faire plus que ça, mais se dire « ok, je vois ma responsabilité, là, mes schémas, mes actions, ce que les mots que j'ai dit, je prends conscience de ça et je me rends compte que ah, c'est pas comme ça que j'aimerais être. Ah, c'est mon automatisme, c'est mon autoroute, j'aimerais changer ça. Ça peut être bien sûr le je suis désolé, je te demande pardon. Ça peut être Ho'oponopono pour ceux qui connaissent. Ça peut être voilà, l'ordre du pardon, d'être désolé, de demander le pardon à l'autre. Il y a des gens qui trouvent ça très puissant. J'ai plus vu ça chez des personnes un peu plus âgées, on va dire, qui ont cette sensibilité-là au pardon, souvent qu'on ont vécu des choses difficiles et qui, grâce au pardon, se libèrent en pardonnant les autres, en étant pardonné par les autres. Peut-être que tu peux demander aussi comment puis-je m'améliorer, comment puis-je corriger les choses. Donc là, tu vois, tu reconnais tes actions en disant bah, je suis peut-être pas très adroit, donc tu reconnais ta responsabilité, tu dis bah, comment je peux faire mieux en fait. Et tu peux dire aussi bah, que je me rends compte que là j'étais maladroit, comment je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire mieux, qu'est-ce qui aiderait dans cette situation. Moi, ça m'arrive des fois de me dire bah, là en fait je me rends compte, j'ai pas été très adroit et pour le moment je vois pas comment je peux faire mieux et je suis désolé de ne pas savoir faire mieux que ça pour le moment. Soit de dire bah voilà, ok, j'ai réagi comme ça, c'est pas terrible, je suis pas fier de moi et en même temps je sais comment je peux mieux faire ou demander bah, comment toi tu as besoin que je sois dans ce moment-là en fait, comment je peux nous aider. Donc là, ça peut être des exemples de prendre mes responsabilités, de mes actions et de comment soigner, comment réparer, comment éviter l'escalade avec ça. Chercher à trouver un accord, un compromis et ou une solution. Donc ça, c'est le troisième. Peut-être simplement, tu commences à me convaincre, se rendre compte que, bah, ah ouais, c'est peut-être moi qui avais tort, en fait. Et peut-être que j'avais pas tort, peut-être qu'on a tous les deux raison. Peut-être qu'on a juste deux points de vue différents et que toi, dans ton univers à toi, ton point de vue, il est totalement justifié. Que moi, dans mon univers à moi, mon point de vue est totalement justifié. Ça me mène aux exemples suivants qui peut être, bah, je te propose un compromis, qu'en dis-tu ? Ou bah, peut-être qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, tout simplement. Voilà, se rendre compte de... ben, on n'est pas les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes expériences. Et même si ton point de vue fait vraiment du sens, quand je regarde la situation de ton point de vue à toi, quand je me mets dans tes chaussures à toi, de mon point de vue, ça ne fait toujours pas du sens. Et voilà, on n'est pas d'accord. Alors souvent, l'exemple typique, on va dire, ce serait peut-être... un avis politique, et puis il y en a un qui est de droite et l'autre qui est de gauche, et puis voilà, et c'est ok de pas, il n'y en a pas un qui est plus intelligent que l'autre, il n'y en a pas un qui est une meilleure personne que l'autre parce qu'il est plus de droite ou plus de gauche, on s'en fiche, c'est juste que bon, voilà, on voit le monde un peu différemment et on a le droit d'être en désaccord, et il y aura des choses sur lesquelles tu vas réussir à trouver un accord, sur des choses sur lesquelles tu vas trouver un compromis, et d'autres choses sur lesquelles tu vas devoir apprendre à accepter comment l'autre est, qui il est, qui elle est, ses valeurs, ses choix de vie, son faire, son être, etc. Donc là, ça te donne un peu, tu commences à me convaincre, je te propose un compromis, qu'est-ce que t'en dis ? Ok, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord, ça te va ? Ouais, on n'est pas d'accord là-dessus, ok, parfait. Et éventuellement, si c'est par exemple par rapport à l'éducation des enfants, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Il y a peut-être aussi des situations dont... donc qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas, on veut rembourser un prêt de manière différente, bah voilà, on est d'accord de ne pas être d'accord, c'est cool, mais... est-ce qu'on fait un remboursement typé petit, gros, on n'en fait pas, on met l'argent ailleurs. Il y a un moment donné aussi, il faut aller au-delà de ce premier niveau, de se mettre d'accord qu'on n'est pas d'accord, et trouver une solution, trouver une action, trouver quelque chose. Donc quatrième catégorie, entre guillemets, pour apprendre à guérir, à prendre soin, à éviter les escalades, à réparer, c'est besoin de retrouver le calme et la sérénité. Donc là, ça pourrait ressembler à... est-ce que tu peux m'aider à me calmer, s'il te plaît ? Je vois que je suis agité, j'ai du mal, je suis débordé, je suis voilà. Est-ce que tu peux m'aider à me calmer ? Est-ce que je sais pas, tu peux me prendre la main ? Peut-être que moi j'ai vécu 5 ans avec mon ex-épouse qui était anxieuse, qui avait des crises d'angoisse. Et il y a des moments où l'aider à se calmer, c'était important. Ça faisait partie des choses que je peux faire sans jouer au sauveur, sans jouer au super-héros, sans la traiter comme une enfant, mais en même temps, bah, se rendre compte que quand il y a une crise d'angoisse qui pointe le bout de son nez et que c'est trop tard pour elle de la gérer, et que je peux avoir ce rôle-là, je peux prendre ce rôle-là, temporairement, et derrière, autant que possible, bah, lui donner sa souveraineté à elle pour qu'elle les gère avec plus en plus d'autonomie, entre guillemets, sans qu'elle ait besoin de quelqu'un pour fonctionner normalement, et vraiment prendre ce rôle-là. Donc aimer à calmer, ça peut être puissant, en fait, entre guillemets, parce que du coup, bah, L'autre, il va se sentir mieux, on prend soin de l'autre, on prend soin de la relation, ça peut éviter une escalade à la colère, peut-être aussi, ce genre de choses. Tu vois, ça peut être aussi une question que tu demandes à l'autre, bah, est-ce que tu peux rendre cette discussion plus sécurisante pour moi? Alors peut-être que toi, tu vas devoir demander quelque chose de plus spécifique que ça, mais il y a peut-être un ton, il y a peut-être une posture, il y a peut-être que tu es en train d'avoir une conversation et l'autre, il tourne le dos, les bras croisés, quoi. Donc peut-être que tu n'es pas en sécurité dans cette dynamique-là. Donc peut-être, est-ce que tu peux te tourner vers moi? Est-ce que c'est OK de relâcher un peu notre posture corporelle, peut-être d'étendre un peu les bras, de les bouger, de les secouer un peu pour détendre un peu. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de sécurisant? Est-ce qu'on peut avoir cette conversation bras dans les bras, par exemple, en câlin, en cuillère, est-ce qu'on peut se chuchoter, pardon, à l'oreille au lieu de parler avec de l'intensité dans la voix, et de face à face, que ça confronte, ce genre de choses, quoi. Comment tu trouves de la sécurité dans la conversation et comment tu peux demander à l'autre d'amener ça si tu en as besoin? Ça peut être quelque chose de très différent aussi, retrouver du calme ou la sérénité. Ça peut être exprimer que c'est important pour moi, par exemple, dire c'est important pour moi. Est-ce que tu peux m'écouter? Est-ce que tu peux m'écouter s'il te plaît, par exemple? Ça peut être dans une discussion où ça part dans tous les sens, où on a du mal à s'écouter, etc. Là, poser le OK. Ça, c'est vraiment essentiel pour moi. C'est important, il faut que je te le dise. J'ai besoin de te dire ça. Est-ce que tu peux m'écouter? Ça va peut-être amener du calme, de la sérénité. Alors là, c'est à toi d'être adroit dans ta manière d'exprimer ce que tu fais, parce que si tu lui dis c'est important pour moi, est-ce que tu peux m'écouter, que tu lui en mets plein la gueule, de manière maladroite, de manière jugeante, de manière attaquante, de manière reprochante, faut pas t'étonner si l'autre, soit il se ferme, soit il rentre dans le lard aussi, hein. Donc c'est aussi à toi de dire OK, je t'ai demandé ton attention, l'autre doit faire un effort dans un moment où c'était difficile pour il ou elle de donner l'attention, et du coup, comment tu trouves cet équilibre-là, quoi? Ça peut être aussi, je me sens dépassé, je me sens submergé, peux-tu? Peux-tu m'aider? Peux-tu m'aider à me calmer? Peux-tu m'aider à, je sais pas, à respirer? Peux-tu prendre ma main et on va marcher? Enfin voilà, quelque chose comme ça, quoi. Vraiment ce sentiment de ah, je suis submergé, je suis dépassé. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, sans vraiment comprendre pourquoi. Il n'y avait pas spécialement de raison apparente, mais vraiment ce sentiment de me sentir submergé, quoi. Et c'est difficile après de rester dans le dialogue. Moi, je me ferme dans ces moments-là. Si on repart sur les quatre cavaliers de l'Apocalypse, de mémoire, c'est l'épisode 147, je t'en reparle dans cet épisode-là. C'est plutôt le stonewalling, donc c'est le mur, quoi. Je me referme, j'ai du mal à parler. Je sens que mon cerveau il marche au ralenti, tout va doucement, c'est compliqué. Et du coup, tu vois, ça peut être vraiment. Je me sens submergé, est-ce que tu peux ralentir? Est-ce que tu peux parler plus doucement? Est-ce qu'on peut aller s'allonger ou s'asseoir? Là, debout, c'est trop pour moi. Voilà. Et trouver des choses qui vont faire que tu vas pouvoir retrouver ton calme, ta sérénité. Je relis vite fait mes notes, mais comme tu te rends compte, peut-être, je ne sais pas si ça te... Mais il peut y avoir beaucoup de vulnérabilité, quoi, si tu es submergé, si tu te sens en insécurité, que tu as besoin de demander à l'autre de l'aide, par exemple. C'est aussi quelque chose qui est très vulnérable. Donc là, c'est important dans une relation qui est saine, dans une relation où les choses se passent bien, où on est aimant, bienveillant, quoi. Sinon, ça peut être facilement abusé, comme ça peut être une prise de pouvoir, une prise de contrôle et d'influence sur toi, et ça peut se retourner contre toi, ça peut être assez compliqué. Donc je pars du postulat que tu es dans une relation qui est saine, qui n'est pas abusive et qui n'est pas... Voilà, donc c'est peut-être à garder dans un coin de ton esprit, quoi. C'est, la vulnérabilité, l'ouverture, c'est super de cultiver ça avec des gens avec qui tu es en sécurité, en fait, tout simplement. Qui sont capables d'offrir la sécurité. Et aussi, tu peux te rendre compte que là, dans ces exemples-là, des fois, il y a besoin d'être assertif. Quand tu dis « c'est important pour moi, est-ce que tu peux m'écouter ?» Là, il y a besoin d'assertivité. On est peut-être dans la vulnérabilité aussi, selon ce que tu as à dire, selon ce que tu as à amener. Mais il y a besoin d'être assertif, d'avoir la confiance, de dire « bah écoute, là, ouais, de se connecter à cet essentiel qui est pour toi, de se dire « bah en fait, non, c'est assez important pour que je te demande quoi, de m'écouter, d'avoir cette assertivité-là. Et voilà, vraiment souligner, mais c'est valable tout du long, mais peut-être ici encore plus important de trouver les mots justes, les mots sages, les mots doux, parce que si encore voilà, si tu demandes que l'autre t'écoute, si tu te sens submergé et que tu demandes un truc, enfin c'est important de voilà, de pas être jugeant, de pas être reprochant, de pas être attaquant, parce que sinon tu vas faire l'inverse de ton intention, de ce que tu veux faire. Et j'imagine que si tu écoutes ce podcast, tu veux retrouver de la complicité, de la sérénité, tu veux trouver des outils pour tout ça dans les moments tendus. Et voilà, si t'es maladroit avec tes mots, ça va être compliqué. Donc là, cinquième catégorie, besoin de faire une pause, besoin d'un stop. Donc là, ça peut être simplement une question, pause, break, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de me changer les idées, etc. Ça peut être, ok, on s'est planté, on recommence depuis le début, ça te va. on prend la conversation à début, on oublie tout si on peut autant que possible. On appuie sur reset, quoi, vraiment, reset, pff, remise à zéro. On essaye autant que possible de revenir à zéro. Est-ce qu'on peut changer de sujet, par exemple? Ça peut ressembler à ça aussi. Là, je sature de ce sujet-là, j'ai besoin de passer à autre chose temporairement. Et attention, dans ces moments-là, quand tu as besoin d'une pause, c'est pas une fuite pour ne jamais y revenir. Il faut qu'on ait cette conversation, il faut qu'on trouve cette solution, il faut qu'on aille au bout de ce truc-là. Mais là, on est bloqué. Et à un moment donné, on ne peut plus avancer. Il faut que quelque chose change et change un peu radicalement. Donc, ok, c'est une pause. On va dans des salles différentes. Il y en a qui va dehors, il y en a qui fait du sport, il y en a qui médite, il y en a qui va prendre une douche. On change de sujet, on passe à autre chose temporairement pour revenir derrière plus tard à ça. Ça peut être aussi de... Ben là, je vois qu'on s'éparpille. Est-ce qu'on peut revenir sur notre vrai sujet de conversation, quoi? Est-ce qu'on peut revenir sur notre essentiel? Je vois qu'on est... Voilà, on s'est perdu, on s'est distrait, on a évité le sujet, on a tourné autour du pot. Est-ce qu'on peut revenir à l'essentiel? Donc, comme tu vois, la pause ici, c'est pas nécessairement une pause physique. Hein, changer de sujet, c'est une pause de ce sujet-là et tu peux rester en communication, tu peux rester avec ton ou ta partenaire. Bien sûr, ça peut être une pause physique dans le sens où, voilà, les corps, ils se tendent, les énergies, elles s'énervent, etc. Et du coup, tu vas être là, ok, je vais faire autre chose, quoi. Je vais méditer, faire du sport, me défouler, prendre une douche chaude, une douche froide, me masser, faire un automassage, prendre soin de moi, écouter de la musique qui me fait du bien, danser. J'ai trouvé un truc qui va me permettre d'évacuer, qui va me faire du bien. Les Gottman, ils conseillent souvent dans ces moments-là moi c'est mon expérience aussi, hein, de trouver des activités qui amènent de la distraction ou de la relaxation. Parce que si tu fais quelque chose, je sais pas si tu fais du sport, mais à faible intensité, que tu vas marcher, et que, en fait, si tu vas marcher, que tu fais que ruminer pendant ta marche, tu rumines, tu rentres à la maison, t'es encore plus énervé que quand t'es parti. Donc il faut trouver quelque chose qui va te distraire, qui va t'empêcher de ruminer, qui va te permettre de repartir de manière plus fraîche sur ces sujets-là, sur cette conversation-là, sur ce challenge-là, sur cette prise de bec-là, qui va t'aider vraiment à y voir plus clair, peut-être, si tu arrives, mais le risque, c'est que ça te fasse ruminer, donc au moins quelque chose qui te distrait, qui permet de vraiment faire retomber la pression, quoi. C'est comme si c'était une cocotte minute, quoi. T'enlèves le petit truc sur la cocotte pour t'en faire sortir la pression, et puis après, tu peux commencer la conversation à nouveau, quoi. Donc ça, c'était le cinquième outil, peut-être. Hein, voilà. Et la dernière catégorie, c'est appréciation et gratitude. Donc là, ça peut être merci pour, comme je disais tout à l'heure, merci. Voilà, merci pour les conversations qu'on a, merci de faire l'effort d'essayer d'avoir cette conversation du mieux qu'on peut. Et oui, je suis maladroite et maladroite, on n'est pas encore parfait dans notre manière de communiquer, mais merci de vraiment de faire l'effort d'avoir la confiance, de choisir la relation, de se dire, en te parlant ça, je te choisis, quoi. J'aurais pu en aller en parler à quelqu'un d'autre, j'aurais pu en parler à la personne avec qui je vais te tromper, j'aurais pu en parler à plein de choses comme ça, tu vois. Non, j'ai choisi la relation, je suis venu te voir toi. On en parle ensemble. Merci, quoi. Moi, je trouve ça génial quand vraiment on se choisit dans une relation. Je te parle de choix, des fois, dans une relation. Et ces moments-là, dire les choses difficiles, pour moi, c'est du choix parce qu'on se tourne vers la relation, vers notre partenaire. On dit, ben là, écoute, c'est toi qui es concerné. C'est notre relation qui est concernée. Donc, c'est avec toi que je vais en parler. Peut-être que je peux en parler à la personne qui m'accompagne, à ma psy, à mon psy, etc. Parce que j'ai besoin de faire ce travail-là avant. Mais par contre, c'est avec... J'en parle avec la personne concernée aussi, et peut-être des fois en premier, et voir comment c'est. Donc c'est merci pour ça, par exemple. Merci pour d'autres choses, hein, pour plein d'autres choses. Je t'entends, je te comprends. Ça peut être ça aussi, la gratitude et l'appréciation. Ça peut être je t'aime. Ça peut être ce que j'admire chez toi, c'est ta capacité à rester calme, à rester ancré, à ne pas t'énerver. C'est ta capacité à mettre les choses en perspective. C'est ta capacité à continuer de m'aimer dans ces moments-là, alors que j'amène des choses qui sont difficiles. C'est ce que j'admire chez toi, c'est tout ça, quoi. C'est peut-être autre chose, mais ça peut être ça. Peut-être dire aussi, c'est pas ton problème, c'est notre problème. Alors là, ça peut être prendre ma responsabilité, prendre nos... Voilà, ça peut être aussi dans cette dimension-là, mais vraiment se rendre compte de... Ouais, en fait, si t'as un problème avec le couple, entre guillemets, c'est pas juste ton problème à toi, quoi. C'est le nôtre, ça va impacter la relation, etc. Donc... Gratitude, appréciation pour la relation qu'on a, peut-être de manière, ça peut paraître de manière indirecte dans ces cas-là, si c'est exprimé comme ça, et en même temps, c'est vraiment important. Moi, je rajouterais la compréhension à gratitude et appréciation, je rajouterais l'empathie, tendresse, amour, c'est vraiment cette bienveillance, ces choses-là, quoi, qui sont dans cette sixième catégorie qu'on va amener. Tu vois, donc on vient de voir les six catégories, comme je te disais plus tôt, ben, tu vois, il y a différentes manières de faire, il y a de s'y prendre, plus ou moins loufoque, plus ou moins sérieuse, plus ou moins fofolle, plus ou moins, je sais pas, technique, j'en sais rien, mais plus ou moins précise, on va dire. Il y a différentes manières d'utiliser ces catégories, d'en trouver d'autres qui sont à toi. Certains, ils vont utiliser de l'humour ou l'autodérision. Ça peut fonctionner. L'humour, ça peut être casse-gueule dans le sens où, si tu utilises comme une moquerie, si ça peut être perçu comme une moquerie de ton ou ta partenaire, ça peut fermer l'autre, ça peut créer de la contre-attaque, ça peut créer voilà, quelque chose de pas sympa, quoi. Et ça peut créer l'inverse de ce qu'on cherche à faire ici, d'éviter l'escalation, d'éviter la tension, d'éviter la dispute, etc., et d'avoir une vraie conversation. Donc voilà, l'humour, il y a des gens qui utilisent ça, et c'est casse-gueule pour eux dans leur relation, parce qu'ils l'utilisent peut-être pas de la manière la plus saine, la plus juste du moins, c'est pas que c'est malsain, c'est peut-être juste pas très juste, tout simplement. Donc attention à ça. Moi, il y a un autre de mes mentors que je trouve intéressant qui lui, quand il se rend compte que ça va tourner en dispute, il se marre, il rigole. Il se force à rigoler, donc il s'est un peu entraîné, hein, bien sûr, c'est pas venu naturellement tout le temps. Mais quand tu rigoles, tu peux pas te mettre en colère. Quand t'es en joie, tu peux pas te mettre en colère. Tu pourrais t'allonger, tu te rendras compte que... Alors c'est quelque chose pareil, c'est Esther Perel qui en parlait, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis, je crois, de mémoire, où ils ont fait des gens s'allonger, tu peux pas t'énerver, te mettre en colère quand t'es allongé, en fait. Il faut être droit, il faut être les bras agités, etc. Tu vois, si tu t'allonges, donc tu peux rigoler, tu peux t'allonger. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces choses-là, c'est que tu casses physiologiquement ton schéma typique, ta réponse automatique, qui va vers une tension, vers une intensité du conflit, par exemple, intensifier le conflit, la tension, etc. Donc tu vas faire retomber la pression, et il y a aussi, ça veut dire que tu vas prendre conscience que tu es dans un schéma négatif, et toi, tu as trouvé un outil, une manière de faire, une solution, quelque chose qui fait que tu casses ça, et que ce soit rigoler, parler, et si je reprends les... pardon, t'allonger, pas parler, que ce soit faire une pause, avoir de la gratitude, de l'appréciation... demander de l'aide, chercher un accord, enfin, tu vois, quelle que soit la catégorie que tu utilises ou celle que tu te crées toi, encore une fois, l'important, c'est le résultat, c'est que ça te permette de préserver ton couple sur le court terme, et bien sûr, sur le long terme, de le nourrir, d'avoir des conversations plus intéressantes, plus profondes, plus riches, etc. C'est d'autres exemples, tu vois, que ce soit l'humour, l'autodérision, avec une petite attention à ça, rigoler, pourquoi pas. Alors, bien sûr, hein, attention à pas que ce soit perçu comme de la moquerie, eux, dans ces exemples-là, la compagne, elle est bien sûr au courant que l'outil que son mari va utiliser pour casser son schéma, c'est rigoler. Ils en ont discuté ensemble, ils l'ont essayé, ils l'ont testé, ils ont vu que ça marchait, ils ont réessayé, ils ont vu que ça marchait. Elle arrive à pas le prendre personnellement, parce que c'est pas de la moquerie, lui, il cherche pas à se moquer d'elle, etc., etc. Et du coup, bah, c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui est intégré comme une option qu'on a, et quand... ils sont en train de voir cette tension qui monte et qu'elle, elle est peut-être pas... C'est lui qui prend conscience d'où ils vont et qu'elle, peut-être pas encore, ou elle n'a pas trouvé le moyen de s'interrompre, d'interrompre son schéma, etc. Lui, il interrompt, elle se dit « Ah, on est en train de faire ça, là ? Ah ouais, on est en train de faire ça. Ok, qu'est-ce que je peux faire, moi ? Où j'en suis ? Lui, il a besoin d'interrompre son schéma, comment moi, je peux interrompre le mien ? Peut-être que je me marre avec lui, peut-être que je demande une pause, peu importe, voilà, t'as compris le truc. Donc voilà, comprends bien qu'il n'y a pas une seule manière de faire, il n'y a pas de garantie non plus que ça marche à tous les coups, mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est l'exploration, c'est d'essayer, comme j'amène souvent, faire des essais-erreurs, ajuster, apprendre, ajuster, apprendre, ajuster, apprendre, ajuster, apprendre, et puis quand tu as fait ça pendant quelques mois, quand tu as fait ça pendant quelques tensions, quelques disputes, des dizaines peut-être parfois, des centaines pour certains, si l'apprentissage est un peu plus long, quand tu commences à vraiment dire là, je commence à comprendre, là, je vois nos schémas, je vois ce qu'on fait. Là, on a trouvé des solutions. Sur ces sujets-là, on n'a pas encore trouvé de solution parce que c'est des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Il y a des conflits de valeurs, il y a des trucs qui sont un peu plus piquants, là, qui sont un peu plus délicats, mais on commence à gérer la majorité. Bah, tu vas commencer à aller vers le... Au début, tu ajustes parce que c'est vraiment peut-être des changements à 90, à 360 qu'il faut faire. Voilà, tu as essayé de rigoler, l'autre l'a pris personnellement, il a cru que tu te moquais ou parce que toi, tu te moquais vraiment et c'est la seule manière que tu as trouvé de rigoler, que c'était pas juste du coup, tu venais pas d'un endroit qui était juste et aligné, etc. Bon. Il y a du boulot, on est dans l'ajustement. Mais après, tu vas pouvoir aller dans l'affinage, quoi, dans quelque chose de plus fin, de plus juste, de vraiment trouver les petits trucs qui font que, ah, ok, j'arrive à le faire encore un peu plus tôt. J'arrive à le faire encore un peu plus souvent. Là, il y a ce sujet-là, on arrive à le faire quasiment partout, et ce sujet-là, on n'y arrivait pas, et là, on va affiner pour vraiment se rendre compte de ce qui était encore là, quoi. Qu'est-ce qui nous... pas nous forçait, mais nous faisait encore danser cette danse, ce schéma automatique, aller sur cette autoroute-là de la tension, de la dispute, de l'engueulade. Et ah, on a trouvé, quoi. On commence à trouver des petits trucs, des grains de sable dans l'engrenage, tu vois, qu'on enlève petit à petit, là. Et puis, ah, ça commence à tourner, à avoir du mouvement, à être harmonieux, ça commence à aller mieux, quoi. Et voilà, c'est affiné une fois que les bases elles sont en place, que tu as commencé à tout intégrer, bah, affiner, ajuster selon ce qu'il y a besoin tout au long de la vie, tout au long de la relation. C'est malheureusement comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça heureusement que ça fonctionne. Je sais pas lequel des deux est le plus juste, et en même temps, bah, c'est comme ça que, enfin, pour moi c'est le réel, quoi. C'est le réel, c'est que c'est des choses qui, si tu le fais un jour et que tu te reposes sur tes lauriers, bah, tu te rendras compte que ça ne marchera plus au bout d'un moment. Et du coup, bah, il faut apprendre, il faut être curieux, il faut continuer, quoi. Il faut vraiment continuer. Et c'est un chemin presque sans fin. Mais tu verras que si tu marches ce chemin-là, normalement, mon expérience à moi, ce que les mentors de qui j'ai appris, on est tous plus ou moins d'accord, les couples que j'ai rencontrés, pour dire que probablement, ce sera une relation qui sera plus agréable à vivre, plus épanouissante, plus nourrissante. Belle, je ne sais pas si c'est le mot qui correspond le plus, mais quelque chose, voilà, qui est plus ajusté, qui est plus authentique aussi. Donc ça me paraît essentiel et important. Donc c'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui, de ces 6 catégories, ces 6 choses, et peut-être quelques autres exemples sur comment prendre soin au lieu d'intensifier les conflits. Bah c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais te rappeler, comme d'habitude, que si tu veux soutenir le podcast, la meilleure manière, l'une des meilleures manières, c'est de t'inscrire, de t'abonner, voilà, c'est le mot que je cherchais, sur Spotify, sur Apple Podcasts. C'est super si tu le fais, je te remercie d'avance. Tu peux aussi partager ce podcast si tu penses que ça peut servir à des gens que tu connais. Je n'oserais pas dire tous les couples que tu connais, mais pas loin, ça c'est ma croyance personnelle. Voilà, ça peut être intéressant, faut-il encore qu'ils soient prêts à l'écouter, à l'entendre, à le comprendre et à vouloir le mettre en place, mais je pense que ça peut servir vraiment à beaucoup de monde. Donc je pense que c'est un épisode important à partager autour de toi si tu as des gens qui, voilà, qui ont cette sensibilité-là, prennent le couple de manière assez importante, on va dire, pour que l'écoute en vaille le coup et qu'il y ait cette ouverture. Et enfin, tu peux aussi simplement laisser un commentaire, laisser des étoiles. Pareil, Apple Podcast, Spotify, la plateforme de ton choix. Si tu écoutes sur ton téléphone, il suffit de le débloquer si tu es en train d'écouter. Tu descends en bas de l'application, tu verras sûrement des petites étoiles à mettre, des choses comme ça. Donc n'hésite pas à mettre, ça t'a plu, un 5 étoiles avec un petit commentaire pourquoi. Et s'il y a des choses que tu aimerais différentes, changer, ouais, tu mets l'étoile qui est juste et tu mets aussi un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. J'ai proposé des accompagnements en développement relationnel. Donc si, par exemple, à tout hasard, tu voudrais prendre soin au lieu d'intensifier les conflits dans ta relation et que l'épisode d'aujourd'hui te parle, bah c'est des choses qu'on peut mettre en place avec l'accompagnement. C'est vraiment des choses. S'il y a cet élan-là dans ta relation, de toi tout seul, de vous deux, de dire bah, ok, on aimerait vraiment faire ça mieux, quoi. On n'est pas très adroit, on a commencé un peu à pratiquer, à s'entraîner, là on est un peu bloqué, on ne comprend pas trop ce qui se passe, là on n'y arrive pas, est-ce qu'on n'a pas trouvé la solution, etc. L'accompagnement, il peut être super pour ça, parce qu'on va vraiment aller dans le. De regarder tout ça et de permettre de vivre ce que tu as envie de vivre dans ton couple, en fait. Et ça peut être du mieux communiquer, ça peut être du moins de prise de tête et une meilleure communication. Et enfin, en parlant de meilleure communication, j'ai un e-book que je t'offre, qui est gratuit, il suffit de le télécharger. Donc tu vas sur grainesdecoeur.fr, c'est mon blog, mon site web. Tu rentres ton prénom et ton email, tu vas pouvoir le télécharger tout simplement. Il y a un email qui te sera envoyé avec le lien pour le télécharger. Ensuite, tu l'écoutes où tu veux, téléphone, tablette, ordinateur, peu importe, tu l'imprimes si tu as envie. En tout cas, je te remercie de ton écoute et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.